créer, charbonner,
job,
tôle, gagne-pain,
chagrin,
turbiné,
tôle,
urbain,
gagner,
plancher, créer, charbonner, tuer, tôle, gagne-pain,
infirmière, exécutée, travailleuse du sexe, preneuse de son, ouvrier agricole. Quel que soit notre rapport au travail, chacune et chacun d'entre nous a une expérience à partager. C'est cette expérience que les chroniques du travail souhaitent explorer. Observer le monde par le prisme du travail et ses conditions d'exercice. Le principe est simple. Un même questionnaire pour toutes et pour tous. Une trame de questions inspirée des enquêtes ouvrières ou enquêtes conscientisantes. Une trame qui parle d'organisation du travail, de hiérarchie, d'outils, de solidarité, d'évaluation, de sens, d'épuisement. Une trame qui mêle vécu et analyse.
Bonjour, vous êtes sur Canal Sud 92.2 et c'est les Chroniques du Travail. Aujourd'hui avec nous, Fisso.
Bonjour.
Bonjour. Alors, quel est ton taf, Fisso ?
Je fais de la musique et je suis aussi technicienne et régisseuse de spectacles.
Ça fait longtemps que tu fais ça ?
Ça fait un peu plus de 10 ans.
Est-ce que tu as une formation pour ce travail ?
Je me suis formée à la sortie du lycée. J'étais très, très jeune. Ils appelaient ça des formations de techniciens polyvalents de spectacles vivants. À l'époque, ça faisait un peu grogner les gens qui bossaient déjà dessus et qui, eux, avaient des boulots très spécifiques de type technicien en lumière, technicien en son, technicien en plateau. Et nous, on arrivait et on nous formait à tous les corps de métier en même temps.
Et ça, c'était il y a... plus de 10 ans, quoi.
Plus de 10 ans, il y a 17 ans, je pense, 18 ans.
Bon, ça va pas trop marcher. Il y a pas mal de nos questions qui vont sûrement pas trop marcher aujourd'hui, mais celle qui suit, c'est qui est ton employeur, quel type de structure, c'est quoi sa mission. Donc là, j'imagine qu'il y a une pluralité d'employeurs. Comment
ouais.
Ça se passe pour toi?
Il y a des associations qui ont du coup des possibilités de faire des contrats de travail, qui travaillent par exemple dans l'action culturelle, qui développent des ateliers, qui font des spectacles en lien avec ça. Il y a des mairies. Il y a des bars, il y a des salles de concert, il y a des salles de spectacle.
Voilà. Des festivals.
Des festivals.
C'est quoi ton volume horaire à peu près par semaine? J'imagine que c'est pas du tout lissé sur l'année.
Non.
Enfin, que c'est pas du tout égal en fonction des semaines.
Non. C'est un peu dur à évaluer. Là, on en parle un peu avec des collègues de mettre le temps de déplacement dans le temps de travail. Pour se rendre compte de combien... Voilà, bref. C'était assez intéressant comme conversation, mais ça dépend. On peut vraiment bosser 24 heures sur 24, être dans un espace et ne faire que ça pendant une semaine ou 15 jours. Je peux avoir des semaines où je fais mon emploi du temps comme je veux et je peux travailler 4 heures par jour et faire ce que je veux le reste du temps. Mais concrètement, je travaille plutôt, je pense, minimum 8 heures par jour, tous les jours, avec un jour de repos dans la semaine. Si on veut faire un calcul, je pense que ce serait à peu près ça.
Et ça pour un salaire de combien?
Là, je suis à 1100 euros par mois, mais j'ai pas de salaire fixe en fait. C'est les allocations qui sont calculées en fonction du volume horaire que j'ai travaillé, combien j'ai été payé l'année précédente.
Donc ça, c'est le régime intermittent.
Ouais, ça c'est les allocations qui sont versées par Pôle emploi.
Est-ce qu'il y a une saison?
Et il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a les saisons de festivals qui sont très visibles parce qu'à l'extérieur, dans plein d'endroits où habituellement il n'y a pas forcément d'événements culturels, mais il y en a aussi l'hiver. Là, moi, je bosse avec une compagnie et ils travaillent que l'hiver. C'est D'accord. Novembre, avril.
Ok. Tu nous dis que c'est le régime des intermittents, du coup, qui fait que tu as un salaire fixe chaque mois.
Ouais.
Tu peux nous expliquer comment ça marche, cette affaire ?
Alors, en fait, c'est une des clauses de l'assurance chômage, l'intermittence. C'est juste un statut spécifique qui est réfléchi pour les gens qui n'ont que des contrats comme nous, c'est-à-dire entre 2 et 12 heures par jour. Donc, on signe que des contrats à la journée. Donc, c'est juste une clause spécifique de l'assurance chômage. Nous, on doit faire 507 heures de travail en 12 mois. Pour pouvoir prétendre à être indemnisé par Pôle emploi sur les 12 mois suivants. Voilà.
ou 43 cachets ?
Alors, 43 cachets, c'est pour les artistes.
D'accord.
Les techniciens doivent en faire 47.
D'accord.
Ils doivent en faire un peu plus, mais un même volume horaire.
D'accord.
Voilà, c'est le nombre de dates où on va être déclaré par un employeur, où on arrive à être payé pour notre travail, en fait.
Et qu'est-ce qui fait que tu décides d'être plutôt dans la case, parce que des fois, dans la case technicienne ou dans la case artiste, parce que j'imagine que parfois, il y a des flous, non ? Des personnes qui peuvent être sur les deux tableaux.
Des personnes qui font les deux en même temps, ouais. Je pense que ça dépend un petit peu. Moi, avant, je préférais faire des cachets d'artistes parce que je faisais beaucoup de concerts, par exemple, et que du coup, ça m'intéressait pas trop d'être en technique. Ce qui se passe en technique, c'est que t'es moins bien payé. Tes cachets, ils sont plus petits. C'est-à-dire, quand t'es artiste, tu fais 12 heures automatiquement. Un contrat de travail sur un concert, c'est 12 heures. Quand t'es technicien, c'est maximum 10 heures. Donc du coup, quand t'es effectivement artiste sur scène, tu vas préférer être déclaré en tant qu'artiste pour faire plus d'heures pour accéder à ton intermittence, en espérant y accéder. Voilà, donc moi je suis plutôt dans la catégorie des gens qui privilégient faire des heures à avoir un bon taux brut horaire, parce que je sais que jamais je vais gagner énormément d'argent et être très très bien payé. Donc, sachant que j'ai besoin de faire des heures, je préfère être déclarée en tant qu'artiste, parce qu'on fait plus d'heures en tant qu'artiste, et que je le suis, par ailleurs.
Ok.
Je sais pas si c'est hyper clair.
Si. Ce que tu nous décris, c'est que c'est un temps plein sur l'année. Est-ce qu'il y a des moments où tu arrives à prendre des pauses ? Tu as des vacances ?
Oui.
Parce que le régime il te permet, mais toi t'arrives à le faire.
Moi j'ai réussi à le faire au bout de plusieurs années, en fait, de vraiment faire un vrai stop une fois l'été, une fois l'hiver, une semaine ou deux, quoi. Parce que sinon c'est effectivement du non-stop. Mais du coup, un peu ce qui se passe, c'est que à Noël il n'y a personne qui travaille, et les 15 derniers jours d'août c'est tranquille, donc je sais que c'est des moments où si je suis pas disponible et très réactive, par exemple, ça va pas faire qu'on me propose du boulot et que j'ai mis trop de temps à répondre, ce genre de choses. C'est deux périodes où ça n'arrive pas en règle générale, donc moi je me permets de vraiment couper à ces moments là
donc 3 semaines par an,
3-4, ouais, je pense.
Ok. Qu'est-ce qui fait ce travail en général de technicienne? Le travail que tu fais, qui le fait en termes de classe, race, genre,
âge. Là je bossais dans une structure, on se faisait la réflexion, ça a changé aussi beaucoup en fonction des disciplines. C'est-à-dire là, par exemple, moi je travaille beaucoup avec des gens qui font du cirque, et du coup dans des lieux qui accueillent du cirque. C'est très différent de la musique. C'est très différent de la danse. En fait, on se rend compte à quel point c'est clivé. J'étais avec une collègue qui m'avait embauchée et qui me disait à quel point elle était contente de plus bosser dans la musique, par exemple. Donc la musique, c'est beaucoup des hommes cis, hétéros, blancs d'une cinquantaine d'années, très, très machistes. Ça commence à changer un petit peu, mais on trouve plus, par exemple, des meufs de mon âge, on va dire entre 35 et 45, en lumière. Plus de meufs qui font aussi de la machinerie, voilà. Après, il y a tous les corps de métier qui installent les scènes, les gradins. Là, c'est clairement... il faut une certaine carrure physique pour pouvoir le faire. Donc, il y a très, très peu de meufs qui font ça. C'est par contre un corps de métier où tu peux apprendre beaucoup sur le terrain sans avoir besoin de justifier de formation. Donc, il y a vraiment des profils de tout type de classe... qui sont représentés, quoi. Pas mal de prolos quand même, il y a très très peu de gens qui ont fait bac plus 8 et qui se retrouvent à faire ça, mais c'est un truc ouvert qui donne du travail à beaucoup de gens sans formation.
Est-ce que, malgré le fait que je pense que c'est un peu difficile, tu peux nous décrire une journée pour toi? Alors, elle sera pas type, j'imagine, parce que tu réalises plein de tâches différentes, mais comment ça se passe, tes 8 heures de taf quotidienne peut-être dans différentes situations? Ça veut dire t'es chez toi et tu cherches du taf, ou t'es en train d'être sur une tournée, ou...
Du coup, si le boulot à la maison, c'est vraiment l'ordinateur, du coup, soit c'est répertorier des contacts, appeler des gens, leur proposer de nous programmer pour des concerts, par exemple, ce genre de choses, ou bien préparer les prochaines tournées. Du coup, c'est aussi beaucoup de la logistique, trouver tous les endroits où dormir, etc. Ça, c'est un peu le taf... Le taf de bureau, moi je fais aussi du son sur ordinateur, donc je passe beaucoup d'heures sur mon ordinateur à retoucher des trucs. En tournée, du coup, c'est énormément de routes. On est, voilà, on n'est pas chez nous. On ne sait jamais où est-ce qu'on va débarquer. On ne sait jamais si tout le monde va pouvoir bien dormir ou pas. On ne sait jamais vraiment qu'est-ce qu'on va nous servir à bouffer. Et du coup, ça fait des horaires très, très décalés souvent, parce que quand tu joues le soir, tu dois arriver tout le matin et tu passes la journée là. Voilà, donc c'est un peu... mais tu rencontres plein de gens, tu découvres des lieux pas possibles, du coup tu voyages énormément. Voilà, il y a aussi les temps de résidence qui sont très importants dans notre métier, c'est-à-dire qu'on part pendant un temps, une semaine ou 15 jours, et on fait, par exemple, que de la musique ou que être sur scène et réfléchir à un spectacle. Et ça, c'est, je pense, aussi un tiers de mon temps, en règle générale, où là, c'est voilà, le matin tu te lèves, tu fais que ça jusqu'au soir,
créer des
et puis tu fais que ça, puis tu manges, puis tu vas te coucher, et puis voilà, du coup tu cherches des endroits pour pouvoir le faire, et ça fait partie aussi du taf de bureau qu'on fait tous et toutes.
Et il y a des gens qui font faire, enfin qui ont spécialisé une partie de leur équipe pour faire certaines tâches, ou comment ça se passe? En général, les gens sont plutôt polyvalents.
Ça dépend. Soit tu te formes parce que tu vois que tes collègues ils font certaines choses et qu'il y a des manques ailleurs, donc toi t'apprends à faire d'autres trucs. Soit quand tu travailles dans des bonnes conditions, bah t'es épaulé par des associations, par des compagnies qui eux ont des gens salariés qui le font. Donc c'est-à-dire plus tu grimpes, au début tu fais tout seul, donc tu dois trouver tes concerts, tu dois faire tes affiches, et puis tu dois communiquer, et puis tu dois aller coller tes affiches, puis tu dois distribuer des flyers, puis tu dois trouver une sono, etc. Puis au bout d'un moment, bah, y a des gens autour de toi qui vont dire « Ah ben moi, vas-y, je suis compétente pour faire de la communication sur les réseaux sociaux, moi je peux faire les fiches de paye ». Même, il y a des gens incroyables qui trouvent des dates. Et donc, on n'est même plus obligé nous-mêmes d'aller contacter des gens pour essayer qu'on nous fasse jouer. Voilà, petit à petit, ça peut prendre cette forme-là aussi.
Et comment ça s'organise? Comment ça s'organise que ces choses se répartissent?
J'ai envie de dire assez mal, hein, en général. moi je me suis formée à la technique, donc tous les groupes dans lesquels j'ai été, c'était un peu simple pour moi parce que je comprenais et que ça fait un peu peur, les consoles son, les endroits pour brancher les micros quand tu sais pas faire. Donc c'était un peu logique que je le fasse. Il y avait des collègues qui savaient par exemple faire du graphisme sur des ordis, qui faisaient des affiches, mais c'est vrai que ça se répartit mal. Du coup, moi, de fait, très souvent, étant compétente en technique, ben j'étais en lien avec les lieux avant tout le monde pour demander l'accueil possible sur place. Donc du coup, c'est moi aussi qui... Voilà. Donc en fait, très rapidement, quand tu as une charge dans l'organisation de quelque chose, ben il y a tous les autres qui vont s'agglomérer autour, quoi. Voilà.
Ok. Est-ce que tu as l'impression que tu as des outils de travail spécifiques? C'est quoi tes outils de travail, toi?
Des logiciels un peu spécifiques pour faire du son.
Sur l'ordi, quoi.
Sur l'ordi, ouais. Il y a aussi des logiciels qui existent quand t'arrives dans une salle et que tu veux tester un peu comment ça résonne dans la salle. T'as des logiciels et puis des petits outils de mesure un peu précis que moi, j'ai pas. Mais ouais, ça coûte cher de s'équiper, en tout cas. Ça, c'est sûr qu'il y a un certain niveau qu'on passe pas quand on n'a pas d'argent parce qu'on peut pas s'équiper, par exemple.
Et du coup, ça veut dire que tu as un certain niveau technique que tu passes pas aussi.
Ouais.
Une qualité de son,
ouais.
Une qualité... Okay.
Ou l'image que je renvoie, puisque quand j'arrive, je n'ai pas tel truc et tel bidule, tel logiciel, tel micro. Donc, on est moins pris au sérieux parce qu'on ne fait pas tel type de tâche qui est normalement liée à ton travail, quoi.
Et du coup, après, mail, téléphone, c'est des outils que tu utilises...
Tout le temps.
Tout le temps. Ok. Est-ce qu'il y a du vocabulaire spécifique?
Oui, plein. Il y a plein de vocabulaire spécifique. C'est de plus en plus des mots anglais, là, maintenant, qui arrivent.
Et genre
Genre... On parle de dry wet sur un, sur un effet de rêve. Ça veut dire sec, mouillé. Avant, c'était des mots qu'on utilisait en français. Ça veut dire, par exemple, quand tu veux donner sur une voix,
texture de son.
Tu vas lui donner une texture de son et c'est plus ou moins mouillé. Ça veut dire que tu as plus ou moins d'effet qui est envoyé par une voix, sur une voix, par exemple, pour faire sonner comme si tu étais dans une église, ce genre de choses. En théâtre, il y a énormément de termes très spécifiques et de mots interdits. Et du coup, si tu dis certains mots, c'est vraiment que t'as pas les codes.
Du genre
c'est interdit de dire corde dans le théâtre. On se sert beaucoup de cordes, type corde d'escalade, mais c'est interdit de dire corde. Il faut dire guinde.
D'accord.
Voilà, par exemple. Donc du coup, c'est aussi des... Voilà,
Et ça sert à se la péter ou ça sert à quoi?
Alors, je pense... Là, le truc de corde et tout ça, et beaucoup ce qui existe dans le théâtre, c'était des vieilles superstitions, parce que c'était des matelots avant qu'ils faisaient ce boulot-là. Et donc, du coup, c'est des vieilles superstitions de bateaux. Donc, il y a vraiment des trucs, tu vois, moi, je sais pas pourquoi, on peut pas dire lapin, on peut pas dire corde, mais ça découle de ces vieilles superstitions-là, des gens qui faisaient ce travail il y a longtemps. Et là, non, c'est que vraiment, il y a un tout numérique, tout passe par ordinateur. Donc, tout le monde bosse sur des logiciels en anglais. Donc, maintenant, tout le monde utilise des termes anglophones.
Donc, tu peux avoir, toi, une discussion avec un ou une collègue qui fait le même taf que toi. Et autour, les gens
comprendraient.
Ne comprendraient rien.
Oui.
Ah, okay. Toi aussi, tu as le droit à ton vocabulaire spécifique. On va écouter un morceau. Est-ce que tu veux nous en dire un truc avant qu'il passe?
Et oui, du coup, je trouvais ça marrant de prendre des morceaux qui vont pas être joués jamais devant du public, sur lesquels nous, on a passé vachement de temps à travailler, et que voilà, ça sera jamais exploité, quoi, tu vois. Voilà.
Et pourquoi il va jamais être exploité?
Alors là, c'est un morceau qui va pas être exploité parce que le groupe, il a splitté, donc les gens, on joue plus ensemble, mais des fois, tu peux avoir plein d'autres raisons qui font que... voilà, c'est pas diffusé, c'est pas joué en direct, t'as passé beaucoup de temps sur un truc, donc voilà. Du coup, c'est un peu morceau surprise.
Ok. Et celui-là, tu veux nous en dire plus sur son histoire spécifique ou non?
Sur son histoire spécifique...
C'était pour un spectacle?
Non, c'est un morceau qu'on a fait comme ça.
Et le groupe est terminé.
Et puis
donc,
le groupe joue plus ensemble.
Et ça s'appelle comment?
Ça s'appelle Going Home. C'est très très triste pour les gens qui comprennent l'anglais. Voilà, et je ne l'avais pas retouché depuis un moment, donc j'espère que ça va sonner à peu près propre pour la radio.
Et toi, tu joues quoi dedans?
Et moi, je joue de la basse dedans.
Okay. C'est parti. Thank you.
cheer up if you prefer the light. The world coming the fuck up, just you and I. A sad story, to talk to someone. A sad glory, you're looking for someone. If there's no page, no nature I can help. No canvas, to burn in your hell. I just wanna put a mirror in your face and consider this as a sacred place. Go home.
Merci, Fissou, pour ce morceau.
Avec plaisir.
On va parler organisation du travail. Et étant donné que tu es intermittente, en effet, le questionnaire il va être un peu à remanier au fil de la discussion. D'abord, est-ce que tu peux nous dire quelle est en proportion la part de l'intermittence en technique et en tant qu'artiste que tu fais ? Comment ça se répartit ?
Ça a bougé juste avant le Covid. Mes premières années, j'étais en technique parce que du coup, je prenais tous les boulots qui passaient. Et puis, j'ai réussi à basculer en artiste pendant 7-8 ans, je pense. Et là, après le Covid, du coup, ça a un peu rebattu les cartes et je suis re-technicienne. Voilà, ce qui veut dire que je dois faire plus de cachets, que je suis moins bien payée, en gros.
D'accord. Est-ce que c'est compliqué l'intermittence, on est tous atomisés, c'est un peu le même statut que le chômeur, c'est un statut d'ailleurs très lié à l'allocation chômage, et du coup ça fait des êtres individualisés, atomisés. Est-ce que quand même sur un événement où tu reviens ou sur une structure dans laquelle tu bosses régulièrement, est-ce que tu arrives à avoir des rapports particuliers, plus approfondis avec des collègues?
Oui, clairement. Bah, après moi j'ai... Enfin... Je bosse quasiment que avec des gens que je connais, par ailleurs, ou je bosse longtemps avec les mêmes personnes. Donc ça crée du lien, mais il n'est pas beaucoup autour de, par exemple, militer pour avoir des meilleures conditions de travail, être mieux payé, etc. Ça ne tourne pas trop autour de ça.
Et pourtant, c'est des choses qui peuvent se discuter ?
Ouais. Oui. Par exemple, de demander à avoir un ordinateur payé par un employeur, ouais. Ce genre de truc. Mais voilà, c'est un peu compliqué dans nos milieux, mais ça commence un peu à se discuter là, ouais.
D'accord. Est-ce qu'on peut parler de hiérarchie dans ton taf ?
Oui.
Tu nous expliques ?
Si t'es dans une salle, tu vas avoir le directeur de la salle qui viendra pas forcément toujours te dire bonjour, mais tu comprends que c'est... Je dis le directeur, parce que c'est beaucoup des hommes qui ont ces postes-là. Ensuite, t'as les gens qui sont chargés de programmation. Ensuite, t'as les régisseurs, régisseuses. Donc, c'est les personnes qui ont les clés de tout, qui connaissent le lieu comme leur poche, etc. Puis ensuite, t'as les techniciens qui vont t'accueillir, parfois qui sont embauchés juste à la journée pour t'accueillir. Et puis nous, on est tout en bas. Sur les festivals, c'est à peu près la même organisation. Donc, tu as le directeur, le régisseur général, etc. etc. Voilà, et c'est très très hiérarchisé. Je pense, donc, comme plein d'autres corps de métier, tu as parfois des gens qui ont des responsabilités très fortes et qui sont vraiment incompétents, incompétentes. Voilà, mais il y a un esprit de corps très très fort, moi je trouve. Voilà, j'ai pas bossé dans beaucoup d'autres milieux, mais en tout cas, au niveau des techniciens, des gens qui bossent vraiment sur les sites et dans les salles, il y a vraiment un truc d'être dévoué à ce que ça se passe bien, à ce que l'événement se passe bien, le concert, le spectacle. Il y a un truc très fort, quoi. Voilà.
Il y a une hiérarchie implicite aussi avec les anciens, les...
Oui. Oui, les anciens, les nouveaux, nouvelles, c'est sûr. Oui. Les mecs, les meufs, c'est sûr. Ouais. La force physique, ça joue énormément. Moi, je me suis fait mal il n'y a pas très longtemps et je ne peux plus trop me servir de ma main droite. Du coup, il y a plein de trucs, je suis obligée de demander de l'aide et je me rends compte à quel point ça me coûte. Parce qu'en fait, montrer que tu as de la force physique et que tu n'as pas besoin des autres pour faire des trucs, c'est super important.
C'est ça, et j'ai envie de dire, les rapports, ils peuvent même être concurrentiels. Je veux dire, la course après le cachet,
ouais.
C'est on va, un régisseur, il va reprendre quelqu'un qui court plutôt que celui qui ne court pas.
Une personne qui n'est pas syndiquée plutôt qu'une personne qui est syndiquée. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas voté la grève plutôt que quelqu'un qui a voté la grève. Ça s'est fait pas mal en 2013, dans pas mal d'endroits. Oui, c'est sûr. Après, moi, je ne suis pas trop dans... Comment dire mon but, c'est d'avoir mes heures. Tu vois, je ne suis pas dans... Par exemple, il y a des gens, leur but, ça va être d'augmenter leur niveau de vie. Donc, ce n'est pas avoir 500 heures, c'est en avoir 1200, etc. Donc, moi, je ne suis pas dans cette dynamique-là. Du coup, je crois que je n'ai jamais trop vu ou subi ce truc de prendre la place de quelqu'un d'autre pour faire des heures. Y a des employeurs, tu sais que si ça se passe bien, tu vas faire des heures régulièrement, etc. Moi, ça n'a jamais été trop mon mode d'organisation dans le travail. Donc, je ne l'ai pas trop connu.
D'accord.
Est-ce que ce que vous décrivez, ça peut être assimilé à une forme d'évaluation permanente, en fait, de ton travail ou...
Clairement, si t'as pas certains codes, si tu travailles pas comme ci, comme ça, machin, t'es pas rappelé. Et... Oui, clairement, c'est sûr.
Ouais. C'est le lot de ce statut, de sa flexibilité,
les
de
contrats
sa précarité.
À la journée.
Ouais.
Si ça se passe mal une journée, même si t'étais censé travailler 15 jours, le jour où ça se passe pas bien, le lendemain, tu reviens pas, quoi. Clairement.
Ouais. Est-ce qu'il y a des évolutions de carrière possibles?
Alors, je pense qu'il y en a plein des possibles. Ça dépend ce que t'es prête à faire, ce que t'as envie à faire ou pas. Moi, la technique, j'avais un peu arrêté. C'était vraiment pénible pour moi. Les équipes de mecs très machos, qui en plus partagent pas le savoir, alors que c'est un milieu où t'apprends parce que les choses, elles se renouvellent sans cesse. Donc, du coup, tu te passes des infos, tu te passes un peu le fruit de tes recherches ou voilà, des choses que t'as découvertes. Donc moi, je l'ai un peu quitté parce que ça m'était trop compliqué. Mais je continuais à être embauchée par-ci, par-là, par des potes régisseuses de spectacles. Il y avait des salles, par exemple, à Toulouse, où c'était des femmes qui avaient eu accès à ces postes-là et qui montaient des équipes que de meufs. Donc moi, ça m'a permis de garder un peu un pied là-dedans. Et puis j'ai fait une formation l'année dernière. Et puis j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur très très fort, de « en plus, je connais pas les trucs ». Et puis, vu que tu travailles pas souvent dedans, t'oublies. Donc, t'as plus les réflexes pour aller vite. T'as oublié qu'est-ce que ça veut dire tel truc, qu'est-ce que ça veut dire tel autre. Donc, t'es tout le temps un peu dans cet endroit flou où tu l'es, mais tu l'es pas vraiment. Et puis, j'avais un collègue à la formation et je comprenais pas trop ce qu'il foutait là. Parce qu'il il racontait les concerts sur lesquels il travaillait. Il faisait la cité de Carcassonne. Il faisait des trucs hallucinants. Je me disais, soit c'est un menteur pathologique, il bosse pas du tout sur ces trucs-là, soit il vient là pour faire des heures, parce que voilà, tu peux transformer tes heures de formation en heures d'intermittence, si tu le souhaites. Et en fait, non, je me suis rendu compte que y avait des trucs que je connaissais mieux que lui. C'est juste que lui, il avait eu le culot d'aller se présenter sur les gros événements et d'aller donner des CV, alors qu'il y avait des trucs que je connaissais mieux que lui et que moi, jamais... Jamais je serais allée me pointer, je dis n'importe quoi, au Capitole pour demander du travail, tu vois. Et en fait, on était au même niveau, quoi. Donc, en termes d'évolution de carrière, je pense que ça dépend vachement de qui tu t'entoures et avec qui tu bosses, en fait. Soit on te donne du travail et de la confiance et des endroits un petit peu chouettes pour prétendre à faire plus de choses intéressantes, soit... Soit je pense que voilà, c'est un peu au culot si t'es, si voilà, si tu te sens de faire ce genre de choses. Moi c'est pas trop mon mode, mais voilà, du coup je préfère bosser avec des gens avec qui j'ai envie de raconter des trucs et que je trouve chouette, pour être dans des bonnes conditions au moins humaines, quoi.
Très bien. Est-ce que y a des moments sur un gros événement, est-ce qu'il y a des moments par exemple où les intermittents techniciens ont demandé ou ont obtenu un lieu pour se retrouver, pour échanger spécifiquement sur les conditions de boulot, les horaires, les...
Alors techniciens spécifiquement, je ne sais pas. Je pense que ça doit exister. Il y a des, ce qu'on appelle des boîtes de prestations, c'est-à-dire des gens qui sont intermittents mais qui sont attachés aux grosses boîtes qui vont louer les grosses scènes et les gradins, etc. Donc il y a des gens qui bossent que sur de la presta. Je pense que certainement, eux doivent avoir des conversations, mais ce n'est pas les plus mal lotis, hein, a priori. Enfin, il y a des gens qui ont des conditions de travail et des niveaux de salaire beaucoup plus bas. Et c'est des boîtes qui filent beaucoup de travail. Je pense que dans ce genre d'environnement, il doit y avoir ce genre de conversation. Mais sinon, c'est souvent très mêlé. Ouais, c'est souvent un peu tout le monde en même temps, quoi. Moi, le peu de, d'AG ou de lutte auxquelles j'ai participé autour de ce statut-là, quand ils essayent de le supprimer régulièrement tous les 5-6 ans, c'était tout corps de métier confondu.
Pourquoi est-ce que tu es tenue responsable dans ton taf quand tu arrives sur un endroit, toi en tant que technicienne, qu'est-ce qu'on attend de toi?
Ah ouais.
Et comment, est-ce que c'est formalisé? Est-ce que c'est écrit à l'avance que toi, tu vas être responsable, je sais pas, de la table, de machin, de trucs? Comment ça se formalise?
Dans la loi, quand on est derrière une console son et qu'on sonorise un spectacle ou un concert, on est responsable du niveau de décibels qui sort des enceintes, c'est-à-dire qu'on doit afficher en permanence, on doit avoir un compteur qui affiche le nombre de décibels au public. On ne doit pas dépasser un certain niveau. Et même s'il n'y a pas un contrôle sur le moment, toutes ces données-là, maintenant, elles sont enregistrées et elles sont sauvegardées. Et donc, il peut y avoir des contrôles à n'importe quel moment et on va retrouver quelle est la personne qui avait fait le son et on est allé au-delà. Et donc, on est tenu pour responsable de ça légalement. On n'a pas le droit de dépasser. Alors, c'est des chiffres, c'est un peu abstrait, hors contexte, mais voilà.
C'est un délit, quoi, de dépasser.
Alors, je ne sais pas comment t'es puni. Je pense que tu dois certainement avoir une amende ou un truc comme ça, mais...
Et par exemple, si y a un constat d'un dépassement de décibels, c'est la structure qui t'embauche ou toi qui va
c'est
payer
toi.
Une amende
C'est toi qui est responsable.
Ok.
C'est la personne qui était sous contrat et qui D'accord. était derrière la console qui est responsable.
D'accord.
Donc il y a ça. Après, on bosse beaucoup avec de l'électricité. Donc ça, c'est tacite, mais sur toutes les installations, on sait qu'on doit faire très très attention au courant électrique, par où il passe, par quelle prise, est-ce qu'il y a la terre, est-ce qu'il y a la terre partout, tout ça, c'est des trucs super importants. Voilà, et de façon plus globale, tout ce qui est lié à la sécurité d'accueil du public, c'est un truc qu'on a tous et toutes en tête, quoi, qu'on est censé vérifier, revérifier, on passe les uns derrière les autres en permanence pour être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui a oublié un truc, et voilà.
Qu'est-ce qui, toi, t'aide dans ton travail en général au quotidien? Est-ce que c'est... enfin, j'en sais rien. Ça peut être plein de choses, j'imagine. Des gens, des, du matériel. De... Ou est-ce qu'au contraire, il y a des choses qui te compliquent la vie dans ton travail quotidien?
Bah, j'ai l'impression que ce qui m'aide pas mal, c'est quand les... quand les tâches sont bien réparties, bien définies de base et qu'on est épaulé par des structures qui, elles, tu vois, sont capables de prendre une partie de ce travail-là en charge. Voilà, je pense que ça, c'est super, super aidant, que tout repose pas sur une ou deux personnes. Voilà, je pense que c'est ce qui fait le plus de bien.
Est-ce que tu arrives à couper mentalement avec ton travail?
Non.
Est-ce que ce travail joue sur ta santé mentale ou physique?
Oui, oui, bah oui, clairement. Bah déjà, je pense que ce truc d'enchaîner tout le temps des horaires de jour, de nuit, de faire de la route, pas forcément, tu vois, toujours être bien quand tu passes 24 heures sur 24 avec des collègues avec qui t'es pas bien, c'est un peu dur, que tu manges pas ce que tu veux et que t'es fatigué parce que tu travailles le jour et puis après la nuit et puis après le jour. Voilà, donc clairement, ça joue, je pense, assez fort, ouais.
Est-ce que tu saurais dire c'est quoi les maladies professionnelles des techniciennes et des techniciens? Est-ce qu'il y a des trucs qui reviennent, qui sont récurrents?
Je pense qu'il y en a plein qui ont le dos en vrac et qui portent des ceintures abdominales, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, qui portent des ceintures, les doigts coupés aussi. C'est, tu vois, pas mal de gens qui ont les mains vraiment très abîmées, le dos super abîmé. Maintenant moins, mais à l'époque, il y avait aussi les oreilles. Les gens qui bossaient sur les concerts à 50 ans, ils n'entendaient plus rien. Voilà.
Est-ce que ce taf, pour toi, il est compatible avec ton entourage, tes proches, avec vivre une histoire d'amour, avec...
Eh ben, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple, mais oui, c'est compatible, ouais.
Qu'est-ce qui est pas simple? C'est les déplacements,
Les déplacements, c'est pas simple. Et puis les retours aussi, souvent, c'est pas simple. Tu vois, le truc de partir, j'en sais rien, 15 jours, 3 semaines, être à fond sur une tournée, enchaînée et être en permanence autour de cette dynamique-là. Et puis tu rentres chez toi et là, t'es solo et t'es complètement épuisé par ton taf et... tu n'as pas revu ton amoureuse depuis 3 semaines, donc elle veut passer du temps avec toi et toi tu ne comprends plus rien à ce qui se passe. Ben voilà, ça fait des décalages comme ça qui sont agréables pour personne, par exemple. Mais ça se passe, ça, c'est possible, c'est pas incompatible.
Est-ce que tu veux nous raconter un moment de loose ou un moment chouette dans ton taf? Est-ce que tu as pensé à des anecdotes qui pourraient nous donner un peu à comprendre aussi ton taf?
Ouais.
Comment ça se passe?
Oui, alors je me souviens de, je pense, un des tout premiers plans que j'ai fait, c'était vraiment l'exploitation totale. C'était pour les 24 heures électro-alternatives à Toulouse, c'était il y a presque 20 ans, je pense. Et ils avaient pris plein de bénévoles stagiaires, sauf qu'en fait, on avait bossé 36 heures d'affilée sans pouvoir dormir. C'était vraiment... On était livrés à nous-mêmes, on m'avait dit « voilà, ben là, tu peux faire le son pour tel truc ». Et puis j'avais attendu et j'avais fait le son, puis les concerts s'enchaînaient, il n'y a jamais personne qui est venu pour me dire « vas-y, prends une pause, vas-y, machin bon, », voilà. Donc ça avait été hyper long.
36 heures non-stop, c'est pas mal long,
ouais. C'était, ouais, ouais. Puis ils nous avaient engueulés parce qu'on ne voulait pas rester au démontage, et moi j'étais là « mais vous êtes des malades en fait », enfin là, juste, franchement, bon.
Et bref. Ça, c'était bénévole?
Ça, c'était bénévole, ouais. Parce que j'étais en stage, parce que j'étais en train de me former, donc ils avaient accepté de prendre des stagiaires bénévoles. Bref, et du coup, je pense que je devais être vraiment très fatiguée. Et puis, il y a quelqu'un qui joue et j'entendais des gros larcènes. Donc, tu vois, des espèces de sons qui faisaient... Et je comprenais pas d'où ça venait. Ça me prenait la tête. Ça a duré vraiment longtemps. Et puis, j'arrive pas à solutionner le truc. Et je décide de sortir fumer une clope parce que je... Voilà. Et là, je me rends compte que le portail s'ouvre et se ferme à côté de la tente et que le portail fait... Oui, à chaque fois qu'il s'ouvre et qu'il se ferme, et je te dis, putain, c'est pas... Voilà, donc tu vois, je pense que la fatigue, ça peut amener à confondre des bruits de portail avec des bruits de larcène bizarre dans la musique.
Donc ça, c'est la loose.
Ça, c'était la loose. Ça, c'était la loose totale, ouais.
Et un moment de feu, de paillettes, de joie.
Et bon alors c'est à moitié aussi la loose, mais c'était plus sur un truc de... on avait fait des rencontres entre... On était 3 groupes. Et l'idée, c'était qu'on partage des morceaux qu'on n'avait jamais joués sur scène et qu'on croise un peu les instruments, parce qu'on ne jouait pas tous et toutes des mêmes instruments. Du coup, on était 17. Et on essayait de préparer un concert ensemble. Il y avait un morceau à chaque fois qui... Donc la personne qui le jouait, j'étais là, putain, c'est fou, ça me fait un truc pas possible. Mais je comprenais pas les paroles. Donc du coup, un des trucs, c'était un moment de dire, ben voilà, les textes, ils veulent dire ci, ça, ça. Et c'était encore pire une fois que je connaissais les paroles. Vraiment, je me disais, c'est trop, quoi. C'est trop. C'était hyper fort. Donc, fallait quand même...
Hyper fort, ça te faisait des émotions.
Ah
ça
ouais,
donnait
moi, j'avais envie de pleurer,
ouais.
En fait. Okay. J'avais envie de pleurer très, très fort. Et... Mais bon, tu vois, tu te dis, c'est pas grave, quand on va monter sur scène, on va... Voilà. Et du coup, bon, arrive le concert et puis on doit le jouer. Et je me dis, putain, je suis hyper triste, mais ça va quand même, je maîtrise. Alors, je sais pas combien de temps se passe, tu vois. Et en fait, je me rends compte que je suis en train de jouer archi faux. Je suis deux cases à côté de là où je devrais être parce que je suis en train de me dire, c'est bon, ça va bien se passer, je vais pas pleurer. Voilà, du coup, je trouvais ça assez marrant.
Donc ça, c'est pas une
hyper fort
pour toi.
Non.
C'est l'émotion qui te bouleverse, quoi.
Ouais, puis le truc de... Ouais, je sais pas si ça vous fait ça, des fois, t'entends quelque chose, tu sais pas, tu comprends pas les paroles, machin, mais ça te bouleverse totalement. Voilà, moi, c'est un peu pour ça que je fais ça aussi, du coup. Je trouvais ça un beau moment.
Ok. Est-ce qu'on se fait une mini-pause musicale?
Ouais.
Allez, on va écouter un morceau. Tu veux nous en dire quelque chose ou pas?
Eh ben, c'est aussi un morceau qui va jamais trop être entendu, je pense, qu'on avait composé pour un spectacle. Voilà, et puis la fin du spectacle a été modifiée, du coup le morceau a été enlevé du spectacle. Voilà.
Ok, à tout de suite. Thank you.
C'est Canal Sud 92.2, c'est la chronique du travail. On est toujours avec Fisso, intermittente, technicienne.
Et artiste. Et c'était une création à toi qu'on venait...
Qu'on a fait à deux, ouais.
Ok. On va parler un peu du sens de ton boulot, en tout cas le sens que toi tu y mets. Pourquoi est-ce que tu fais ce travail plutôt qu'un autre ?
Eh ben, moi j'ai... Voilà, je sais pas trop comment expliquer ça sans que ce soit chiant. L'école, c'était clairement pas pour moi. Je faisais de la musique déjà depuis longtemps. Je trouvais ça un peu magique, ces trucs de des gens qui étaient derrière, qui arrivaient à enregistrer des choses. Du coup, voilà, du coup, j'ai trouvé un endroit qui voulait bien me former. Et je suis rentrée là-dedans, tu vois, sans trop chercher à faire quelque chose, mais juste en me disant que autre chose, non.
Ouais. Très bien. Quels sont, est-ce qu'il y a des enjeux pour toi à ce boulot, ou en tout cas à ce corps de métier, bah, vu la menace qui plane sur vous là, pour les prochaines 5 années à venir ? Il y en a, c'est sûr. Mais est-ce que tu peux nous en parler, là, de ces enjeux politiques, sur ce statut ?
Ou sur le sens du taf aussi,
ouais.
De la culture, là. Mm.
Eh ben, moi, le sens du taf, ouais, pour moi, c'est hyper important. Parce que, tu vois, l'endroit d'être sur une scène et de pouvoir dire des trucs, et de pouvoir montrer des images, et je trouve que faut pas le prendre à la légère, quoi. Je trouve que c'est très... Voilà, ou tu décides de rien dire, hein. Mais bon, en général, tu... Voilà, t'as quand même cette possibilité-là de... Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc un peu plus grand que nous, un peu plus... voilà, c'est la partie où ça va vraiment être ennuyeux. Mais je sais pas trop, je crois, répondre à cette question. En tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se la posent pas dans ce milieu-là, et je trouve ça dommage, parce qu'on a un outil de fou qui nous permet de faire plein de choses. Voilà, mais ça veut pas dire que pour autant je le fais ou que je le fais bien. Et après, c'était quoi sur le taf
je vais rebondir ouais. Sur ce que tu disais là. Quand tu dis qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a deux conceptions de la culture peut-être présentes, une qui se contente d'une reproduction de culture classique, dominante, presque élitiste, et qu'il y a un autre versant de la culture peut-être plus vindicative, plus...
Ouais. Eh ben oui, tu vois, je pense qu'il y a une image, quand tu vois les, par exemple, les différents lieux qui vont programmer de la culture, t'as autant des bâtiments en marbre qui ont coûté des millions que des gens qui font ça dans un corps de ferme qu'ils ont retapé avec leurs potes, quoi. Ouais. Donc, c'est, voilà, je pense que cette image-là, elle se décline aussi aux gens.
Bien sûr.
Et dans quels endroits ils souhaitent se représenter. Et si ils ou elles sont politisés, qu'est-ce qu'ils font quand ils vont dans des endroits en marbre, qui ont coûté 8 millions.
Voilà. Il y a peut-être un enjeu là.
Ouais.
Ok. En quoi ce travail est-il révélateur de la société capitaliste dans laquelle nous sommes ?
Eh ben, avec ce truc voilà, d'être sous contrat à la journée, c'est très rare. Par exemple, qu'on signe des contrats de travail avant. Moi, ça m'est quasiment jamais arrivé de signer un contrat de travail avant d'arriver sur un lieu. Donc, ça tire toujours plus vers le bas. C'est-à-dire que nous, par exemple, à la technique, on va faire des services, ce qu'on appelle des services. Donc, on va être payé 1, 2, 3, 4 services. Donc, c'est 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures. Et là, ça tire de plus en plus vers le bas. Ce qui fait que on travaille pas dans des bonnes conditions, on se blesse plus facilement, on fait des installations dangereuses pour le public. Mais voilà, du coup, les coûts sont baissés en permanence. Donc ça, c'est un des impacts très clairs et là qui se sent de plus en plus. Sur le côté artistique, les salles font... les salles qui ont des moyens qui touchent beaucoup de subventions font de moins en moins leur travail de programmation large et de découverte, donc programment de plus en plus des trucs lisses qui sont beaux, voilà, mais qui ne sont que ça, prennent plus de risques, programment au non. Et donc l'émergence de nouvelles choses, de nouvelles disciplines, de nouvelles façons de faire ou des spectacles hyper forts, et ben, c'est gommé parce que pour avoir les subventions et pour que le public y vienne, et ben, on programme des trucs lisses et sans beaucoup de fond.
Quand tu dis plus, t'as l'air d'avoir observé une dégradation. Ouais. C'est une dégradation que t'as observée depuis que tu fais ce job ou par exemple depuis le Covid ou depuis que tu
non,
fais...
depuis avant ouais. le Covid déjà, on avait bossé sur un spectacle où on avait eu ces retours-là des pros qui disaient « Ah, c'est un peu trop engagé. » Alors que franchement, je veux dire, voilà, c'était il y avait des trucs qui passaient, mais... donc non, ça fait un moment que c'est comme ça et c'est clairement de plus en plus comme ça.
Ok. Est-ce qu'il y a des choses dans ton travail qui te posent des problèmes de conscience?
Je crois que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps que c'était pas si ouvert à tout le monde que ce que je pensais.
La technique ou la culture,
plutôt la culture, qu'en fait c'est pas si accessible et c'est pas si ouvert à tout le monde et c'est pas vrai, et du coup ça me posait un peu un truc de et ben c'est quoi les outils en fait, qu'est-ce qui est faisable pour vraiment casser ces trucs de qui est légitime de rentrer dans un théâtre et qui l'est pas, par exemple. Voilà.
Okay. Élargir, toucher, sortir la culture.
Il y a plein de gens qui le font, mais voilà. En tout cas, ça, c'est un truc dont j'ai pris conscience tardivement. Et puis, après, l'impact écologique de nos métiers, c'est vraiment énorme, quoi. Donc, voilà, ça, c'est un cas de conscience un peu gigantesque. T'es super content de partir jouer, mais en fait... tu fais 4 pleins et tu utilises 18 rouleaux de scotch et voilà, bref.
Et à minima, parce qu'après, quand tu es technicien sur des festivals Évidemment. Énormes, là. On va parler lutte. Tu nous as évoqué tout à l'heure une date, 2013. Qu'est-ce que c'était cette date? Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh ben, c'était une nouvelle tentative de supprimer ce régime spécifique qu'est l'intermittence, qui est un régime d'allocation chômage. Donc, il y a eu beaucoup de mobilisations, de festivals qui ont été bloqués. Du coup, à Toulouse, nous, on avait bloqué le Rio Loco. Voilà, c'était assez incroyable parce que du coup, tu te rends compte à quel point il y a une vraie économie, c'est-à-dire tous les restaurateurs qui sont sur place, tous les artisans qui viennent vendre des trucs, les gens étaient à cran, étaient super vénères contre nous parce qu'on bloquait le site du festival. Mais il y avait aussi, par exemple, des gens qui bossaient aux impôts, des gens qui bossaient à Pôle emploi, qui venaient expliquer la réforme, qui venaient expliquer à quel point c'était grave et dangereux, etc. Avec cet endroit-là, un des endroits de cette lutte qui dit que, en fait, on est précaire, mais 86% des gens, alors maintenant, même peut-être que c'est plus, travaillent en contrat précaire. Donc que des CDD qui sont très rarement renouvelés, ou s'ils sont renouvelés, ça reste des CDD. Et que du coup, nous, on a quand même un système qui nous protège pas trop mal, et qu'il faut l'élargir à tout le monde. Qu'en fait, un des trucs qui est conscientisé au travers de cette lutte, c'est de se dire, ils veulent pas supprimer ce truc-là parce qu'on est des gens et qu'on travaille dans la culture. Ils veulent le supprimer parce qu'ils refusent de l'élargir à toutes les personnes précaires. Voilà, du coup, il y avait cette lutte-là. Moi, je connaissais pas... Bon, voilà, j'y suis allée un peu bille en tête et c'était vraiment très, très chaud. Et puis, on essayait aussi de convaincre les collègues sur place, intermittents et intermittentes du spectacle, avec qui on avait très peu de contact. C'est-à-dire, ils étaient d'un côté du site et nous, on était de l'autre. Voilà, on a appris que leur vote pour voir... Enfin, nous, on espérait qu'ils se mettent en grève avec nous, en fait, et que non seulement on bloque le site du festival, mais que tous les gens qui étaient intermittents sur le site se mettent en grève avec nous. Mais en fait, le directeur était là pendant le vote à main levée. Voilà, c'est ce genre de truc-là. Et puis... Et puis on s'est fait dégager par des restaurateurs qui étaient très 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 en colère, qui pouvaient pas ouvrir parce que eux payaient très cher l'accès et la patente pour être sur le festival. Enfin voilà. Du coup pour moi c'était un truc un peu marquant de à la fois se rendre compte que t'as Pôle Emploi qui vient expliquer à des intermittents qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là, pourquoi c'est dangereux avec des inspecteurs des impôts qui viennent faire voilà, un vrai truc de corps. Et derrière, des collègues, des gens qu'on connaissait, quoi, hein, qui sont aussi des collègues de travail par ailleurs, qui bougeaient pas le petit doigt et puis qui regardaient le truc se passer. Voilà, on a gagné quelques trucs, mais ça revient sur le tapis de réattaquer ce régime-là très régulièrement. Mmh. Comme tu le disais, là, ça va de nouveau être à l'ordre du jour.
Complètement. Est-ce que la Cégette n'a pas trop confisqué, piétiné la lutte en 2013, comme c'était le cas en 2003 ?
Alors, moi, j'ai fait que le blocage du Rio Loco. On avait bloqué la Lograin aussi sur une journée. J'ai pas trop vu les gens de la Cégette. Moi, j'étais plus scandalisée par un truc de dire, voilà, le mouvement est horizontal. Et tout ce qui est décidé en AG, donc tous les matins, il y avait une AG, on décidait, on bloque, on ouvre ou pas. Donc, il y avait eu un jour de blocage ou deux, je sais plus, un jour d'ouverture publique gratuit. Avec des infos, on était tous là, on se relayait pour passer des infos aux gens. Puis on avait redécidé de bloquer parce qu'on trouvait que bah voilà, ça suffisait pas comme moyen de pression. À ce moment-là, du coup, ça a été très très, ça s'en est venu aux mains. On s'est fait foncer dessus avec des barres de fer par les gens qui pouvaient pas ouvrir leur restaurant, qui étaient vraiment très énervés. Et du coup, à ce moment-là, les gens qui n'étaient pas à l'AG du matin, mais qui sont des militants, militantes depuis des années dans le mouvement, nous ont expliqué que, bah ouais, mais en même temps, ce qu'on avait fait, c'était nul. Et puis, ils sont revenus dessus. Ça, moi, ça m'avait un peu plus énervé. Voilà. Je me souviens pas de gens de la CGT qui confisquent ou qui. Voilà.
D'accord. Et donc. Est-ce que vous avez obtenu gain de cause sur certains points revendiqués ?
Ouais, du coup, ils avaient enlevé un mois et demi, donc c'est-à-dire qu'au lieu de 12 mois, on n'avait plus que 10 mois et demi pour faire les 507 heures. Donc ils sont revenus dessus, donc ils sont repassés à 12 mois. Mais en contrepartie, nos congés payés sont maintenant déduits de nos allocations chômage. Donc on a 12 mois pour faire nos 507 heures. Mais quand on demande des congés maladie, on va toucher, pour moi qui fais à peine plus de 507 heures, je touche un peu moins de 500 euros de congés payés par an. Et dès que je renouvelle mon intermittence, ça m'est déduit de mon intermittence. Donc en fait, on s'est fait sucrer nos congés payés au même moment. Voilà, les modules de formation ont changé aussi, donc on est repassé à 12 mois, mais c'est pas cadeau, quoi.
Ah ouais, vous vous êtes fait manger vos congés.
On n'a plus de congés, on n'a plus de congés payés.
Oh. Et là, récemment, il y a eu aussi tout un micmac autour du Covid et de la possibilité de prolonger, nous raconter un peu, prolonger la durée de cotisation.
Ouais, de dire que vu que nos espaces de travail étaient fermés, il n'était pas logique qu'à la fin de notre période d'indemnisation, on se retrouve à zéro. Et donc, le départ, c'était de dire, tant que les spectacles n'ont pas repris, on prolonge les droits de toutes les personnes qui touchent l'intermittence. Et puis, ça a un peu évolué. Donc, début mars 2020... tous nos contrats de travail, on avait du chômage partiel à hauteur de 7 heures. Et puis, d'un coup d'un seul, en mai, c'est passé à 5 heures. Moi, j'ai pas compris, j'ai reçu mes trucs, c'était 5 heures au lieu de 7. Voilà, donc entre autres choses, il y avait ça. Et puis, le truc de dire que, en fait, notre travail, il a pas repris normalement. Il y a énormément de lieux qui ont fermé, il y a énormément de lieux qui ont plus les moyens. Il y a énormément de lieux qui n'ont pas voulu appliquer le pass sanitaire, donc on ne travaille pas dans les mêmes conditions qu'avant le Covid. Donc on a demandé à ce qu'il y ait des choses qui soient mises un peu en place, qui tiennent compte de ces réalités-là, notamment de gens qu'on appelle primo-entrants, c'est-à-dire des gens qui vont avoir leur première assurance chômage au régime spécifique de l'intermittence. voilà, ouais, ça exclut énormément de gens. Moi, je trouve que les conditions de travail ont changé depuis ce moment-là. C'est encore plus la galère, donc c'est encore plus compliqué. Voilà.
Il n'y a jamais eu le taux, de toute façon, qui est revenu avant 2020, quoi.
Non, je crois que c'est... alors, en fonction des... Si c'est cinéma, si c'est spectacle vivant, si c'est danse, c'est entre un tiers et un quart du public qui n'est pas revenu dans les salles.
Ok. En termes de moyens spécifiques aux luttes des intermittents, donc il y a les blocages des événements.
Il y a les blocages, il y a le fait de pouvoir... prendre la parole en public, il y a le fait de pouvoir s'afficher à la télévision assez facilement. Et puis le fait aussi, je pense, de proche en proche, de pouvoir très vite avoir des gens qui vont être des noms ou des célébrités qui travaillent avec des personnes qui sont sous ce régime-là. Donc l'écho des luttes, il est, je pense, privilégié dans notre milieu.
D'accord. T'es confiante dans... la lutte qui va se développer sous le prochain mandat?
Je sais pas. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui ont arrêté pendant et ou après le Covid. Mmh. Voilà, qui se sont reformés à autre chose, qui ont un peu décidé d'arrêter tout ça. Je suis confiante, je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas. Ouais. Pas vraiment, du coup, je crois.
D'accord. Qu'est-ce qui pourrait améliorer le statut? Là, l'État va faire en sorte qu'il disparaisse. Et si on devait lutter contre sa disparition et pour son amélioration, qu'est-ce qui pourrait l'améliorer?
Qu'est-ce qui pourrait l'améliorer? Bah, je pense un peu comme dans plein de boulots, c'est que faudrait vraiment augmenter le SMIC, quoi. Mais pour tout le monde, tu vois. Ouais. Du coup, qu'on se retrouve pas dans des allocations de bout de chandelle, voilà. Pour moi, il faut qu'on se forme à ce statut-là, parce qu'un des trucs qui rend ça très très galère, c'est que il y a très peu de gens qui comprennent l'entièreté du statut, de comment ça marche et de comment Pôle emploi calcule les choses. Donc je pense qu'il faudrait vraiment des agents, agentes de Pôle emploi en plus grand nombre, capables de nous expliquer comment ça marche, parce que personne n'y comprend rien, et que ça change en permanence, et que c'est voulu, hein, c'est volontaire tout ça. Donc voilà, moi je pense que déjà, si on arrivait à nous expliquer simplement comment on peut faire.
Est-ce que le CIP existe toujours, qui faisait ce boulot par ailleurs, ouais, d'interpréter les réformes?
Le CIP existe toujours. Alors,
vous pouvez nous dire ce que c'est?
Le collectif intermittent et précaire, c'est national. Le CIP Paris est très très... Enfin, le CIP Île-de-France est très très fort. C'est des gens, du coup, souvent aux origines des mobilisations des intermittents et intermittentes. Voilà, qui portent aussi ce truc, c'est de dire que les droits pour lesquels nous on lutte sur notre assurance spécifique chômage, c'est aussi un truc qui concerne toutes les personnes qui sont précaires. Voilà, du coup la CIP c'est ça, ça existe toujours. Moi j'ai passé un peu de temps à quelques AG pendant les occupations de théâtre qui avaient lieu quand les théâtres étaient fermés la première année du Covid. Et du coup, c'était assez intéressant parce que ça a essayé d'aller reconnecter d'autres luttes, notamment avec les Gilets jaunes. Du coup, il y avait pas mal de gens de la CIP qui allaient aux AG des Gilets jaunes et puis qui proposaient des moyens de lutte un peu collective. Voilà, et qui ont clairement compris que pour eux, rentrer dans un théâtre, c'était pas leur endroit de lutte, quoi, qu'ils étaient très bien là, et que non, ils avaient pas envie d'être dans des sièges avec une clim allumée pour pouvoir prendre la parole à tour de rôle en levant la main. Voilà, du coup, ouais, la CIP existe toujours.
D'accord. La suite, pour toi, à titre personnel, c'est quoi?
Écoute... Là, je suis un peu en stand-by. Je ne vais pas repartir avant mi-mai. Du coup, c'est un peu une phase ordinateur-téléphone, là, qui s'ouvre. Je fais un peu de la régie de tournée aussi. Donc là, j'organise les transports, les hébergements, les repas de tout le monde en tournée. Donc je vais faire ce genre de choses avant de repartir. Voilà.
Tu penses pouvoir faire ce taf encore longtemps ?
Je suis pas sûre. Enfin, en tout cas, je me retrouve dans une situation comme quand j'ai commencé, de galérer beaucoup à faire mes heures, de galérer beaucoup à être déclarée et d'avoir de moins en moins de visibilité sur mon travail. Donc, du coup, le jour où j'aurai plus mon intermittence, je pense que je vais être un peu obligée de faire autre chose. Ouais.
Eh ben, merci.
Avec plaisir. Merci.